France Musique, au cœur de l'orchestre, Christian Merlin.
Bonjour à tous, bienvenue au cœur de l'orchestre. D'habitude, quand on fait l'histoire d'une maison d'opéra, on parle surtout des grands chanteurs qui s'y sont produits. Dans Au cœur de l'orchestre, c'est différent, car j'ai toujours été convaincu que l'âme d'un théâtre lyrique, c'est son orchestre. Alors, direction New York, 28 avril 1880, 22 hommes d'affaires se réunissent au restaurant Delmonico. Ils se sont enrichis grâce à la révolution industrielle et ils en ont assez d'être méprisés par l'aristocratie rentière qui monopolise les abonnements à l'Academy of Music. Alors, ils décident de fonder un nouvel opéra, le Metropolitan, au croisement de la 39e et de Broadway. On ouvre en 1883 avec Faust de Gounod. Et pour ça, il faut bien un orchestre.
Thank you.
Je ne vais pas vous mentir, ce n'était pas la soirée d'ouverture du 22 octobre 1883, mais c'était bien Faust, le si beau prélude qui permet d'entendre tous les solistes des bois, mais aussi la harpe et la pâte des cordes. Et c'était bien l'orchestre du Met, mais en 1951, sous la direction d'un de ses chefs attitrés d'alors, Fausto Cleva. Le premier violon de l'orchestre a été un Italien d'ailleurs, Giovi Cioffi, et parmi les premiers chefs, il y a eu Léopold et Walter Damrosch, le père et le fils, deux piliers de la vie musicale new-yorkaise. On a 2 minutes d'enregistrement sur cylindre avec Walter Damrosch, mais je vous en fais grâce, car en fait, on n'entend rien. Les plus grands chanteurs se produisent au Met. Caruso fait ses débuts en 1903, mais pour l'orchestre, le premier âge d'or intervient en 1907. Le premier violon est alors Max Bendix, et le directeur général de la compagnie, Heinrich Konrad, un Autrichien, qui est sur le point d'être renvoyé par le conseil d'administration, réussit un gros coup avant de partir, faire venir Gustav Mahler, qui vient de démissionner de l'Opéra de Vienne. Dans Don Giovanni, dans Fidelio, dans Tristan, l'intensité maximale de la direction de Mahler électrise le Met. Bon, il est mort en 1911, vous imaginez bien qu'on n'a pas d'enregistrement de Fidelio par Mahler, mais en 1941, au Met, c'est son ancien disciple et confident Bruno Walter qui dirige Fidelio. Alors, on peut toujours se dire qu'il y a un peu de l'esprit de Mahler qui souffle.
Yeah!
22 février 1941, en pleine Seconde Guerre mondiale, ce vent de liberté que fait souffler Bruno Walter dans la fin de Fidelio de Beethoven, il galvanise le Met, le public, les musiciens, la distribution, Kirsten Flagstad, René Maison, Alexander Kipnis et tous les autres, peut-être un peu dans l'esprit de son maître Gustav Mahler. Alors peu après l'arrivée de Mahler, le Met change d'administrateur. C'est Giulio Gatti-Casazza, ancien directeur de la Scala, qui arrive. Et qui amène-t-il dans ses bagages ? Toscanini. Il sera chef principal du Met de 1908 à 1915, appliquant les mêmes méthodes que partout ailleurs, exigence maximale, mise au point maniaque, l'orchestre est métamorphosé. Mais il y a inévitablement une rivalité Toscanini-Mahler, qui n'est pas simple. D'ailleurs, Mahler ne tarde pas à prendre finalement la direction du New York Philharmonic, où au moins il est seul maître à bord. Mais bon, si vous êtes mélomane à New York en 1909, par exemple, le 20 février, vous pouvez voir Fidelio dirigé par Gustav Mahler et le lendemain, le Requiem de Mozart par Arturo Toscanini. Au départ de Toscanini, retour à une direction autrichienne avec l'arrivée d'Arthur Bodansky, un chef viennois qui a été l'assistant de Mahler, décidément. Bodansky va poursuivre et intensifier la tradition wagnérienne du Met dans des tempi toujours très rapides et tendus. Pour les voix, aucun souci quand on a sous la main Marjorie Lawrence et Lauritz Melchior. En revanche, l'orchestre, il n'a pas le choix, il faut suivre. Yeah. On enregistrait à l'époque sur disque en acétate, d'où le son archéologique. Mais quelle flamme pour ce crépuscule des dieux du 11 janvier 1936. Vous avez eu le voyage de Siegfried sur le Rhin. Et avant cela, quelques notes des renversants Lauritz Melchior en Siegfried et Marjorie Laurence en Brunhilde, qui n'était pas encore paralysée par la polio. Un destin qui a ému toute l'Amérique. C'est Arthur Bodansky qui dirigeait, chef principal du Met de 1915 à 1939, avec pour premier violon un Belge, Pierre Henrotte. Mais Bodansky n'est pas seul à cette époque. On divise le travail par répertoire. Bodansky est responsable de l'opéra allemand, mais il y a aussi un titulaire du répertoire français et un autre du répertoire italien. Pour l'opéra français, c'est un nom que vous connaissez si vous avez écouté ma série sur l'Orchestre symphonique de Montréal le mois dernier. C'est le Québécois Wilfried Pelletier, un protégé de Toscanini. Cet extrait de l'ouverture de Mignon d'Ambroise Thomas par l'orchestre du Met, dirigé en 1945 par le responsable du répertoire français, le Montréalais Wilfrid Pelletier. Et oui, il est d'usage à l'époque d'avoir un spécialiste pour chaque type de répertoire. Pour l'opéra italien, en l'absence de Toscanini, retourné en Italie, puis à la NBC de New York, il y aura dans l'entre-deux-guerres Ettore Panizza, ou Hector Panizza, car il était né en Argentine, de parents italiens, pour diriger, il utilisait la version italienne de son prénom. Encore un chef oublié, bien injustement, car il avait dans Verdi une sorte d'incandescence, avec une poigne à la Toscanini, mais peut-être plus de flexibilité. Et puis alors une manière survoltée de tendre le drame, c'est du théâtre. Écoutez un peu la fin de l'acte 2. Le duo entre Othello et Iago, où Othello réclame vengeance. Avec encore deux voix de folie, le ténor Giovanni Martinelli, un Othello complètement possédé, et le baryton Lawrence Tibbett, un fils de shérif californien qui a aussi fait carrière au cinéma, un Iago démoniaque, et Panizza qui chauffe à blanc l'orchestre du Met. Othello réclame du sang, sangue, sangue, et bien l'orchestre le prend au mot. Othello de Verdi, le 12 février 1938. Ça a sans doute été une de ces soirées électrisantes dont l'enregistrement sur le vif restitue l'impact physique. Et c'est le dernier exemple pour ce premier jour de ma série de la semaine sur l'orchestre du Met, dirigé ici par Ettore Panizza avec Giovanni Martinelli et Lawrence Tibbett. Je demande pardon à Marie Groux à la réalisation et à Valérie Lavalard à la technique qui aime les belles prises de son. Mais c'était le prix à payer pour entendre des interprètes de légende. Demain, on ira jusqu'aux années 50. Très bon début de semaine à tous, à l'écoute de France Musique.
France Musique, star du classique, le rendez-vous de la semaine d'Aurélie Moreau à 16h30. Nelson Gerner est un pianiste argentin de renommée internationale. Il est surnommé le pianiste du bonheur à cause de la lumière et de la sérénité qui émanent de son jeu. Du romantisme de Chopin à l'intensité de Sergueï Rachmaninov, en passant par l'éloquence de Liszt, son répertoire est un hymne à l'émotion et à la musicalité. Nelson Gerner, des profondeurs du piano à la lumière, c'est tout à l'heure dans Star du Classique.
Star du Classique, une émission France Musique à retrouver sur le site et l'appli Radio France.
S'il y a une comédie musicale que le monde entier connaît et qui a battu des records, c'est bien la Mélodie du Bonheur. Et le début du film est devenu iconique. Rappelez-vous, la caméra qui surplombe les vertes Alpes autrichiennes. Soudain, zoom, on aperçoit au milieu une jeune femme qui virevolte en chantant.
La story de la Mélodie du Bonheur, un podcast France Musique de Laurent Vallière, à écouter sur le site et l'appli Radio France. En piste, Émilie Munera, Rodolphe Bruno Boulnier, à 9h sur France Musique.
Direction Verbier demain avec de jeunes musiciens et un grand chef.
Simon Rattle dirige deux symphonies de Beethoven, dont la célèbre cinquième.
Nous serons sur les cimes ce mardi dans En piste.
En piste, une émission France Musique à retrouver sur radiofrance.fr et l'appli Radio France.
Bonjour Charlotte Landru-Chandès, il est l'heure de vous retrouver pour les grands concerts.
Bonjour Christian Merlin, et oui, tout à fait, une heure de concert maison. Et vous, on vous retrouve demain à midi pour Au cœur de l'orchestre.
À demain.
À demain.
France Musique, les grands concerts de la Maison de la Radio et de la Musique. Charlotte Landru-Chandès.
Bonjour à toutes et à tous, il est midi et demi, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle semaine et on commence fort dans nos grands concerts puisqu'on écoute le pianiste argentin Nelson Gerner, héritier d'une grande école d'interprétation fondée par le pianiste Vincenzo Scaramuzza et perpétuée par Martha Argerich. Nelson Gerner, c'est un pianiste juste, à la fois discret et intense. On le retrouvera tout à l'heure dans le concerto numéro 2 en fa mineur de Chopin qu'on écoutera en intégralité. Et en attendant, voici deux pièces pour piano seul, à commencer par le très pudique et passionné Nocturne numéro 14 en fa dièse mineur.
Thank you.
Le pianiste Nelson Gurner en concert le 17 juillet 2018 au Festival Radio France Occitanie Montpellier. On l'entendait interpréter d'abord le Nocturne numéro 14 en fa dièse mineur de Chopin et à l'instant la Barcarolle en fa dièse majeur.
France Musique, les grands concerts de la Maison de la Radio et de la Musique. Charlotte Landruchandès.
Midi et 46 minutes, bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent. On vous souhaite un excellent déjeuner à l'écoute de France Musique. Alors après les pièces pour piano seul de Chopin, nous allons faire un tour du côté de sa musique concertante, toujours en compagnie de Nelson Gurner. Chopin n'a pas encore 20 ans quand il se lance dans l'écriture d'un concerto pour piano. Le piano, c'est son instrument, il y excelle. Le concerto qu'il est en train d'écrire, celui en fa mineur, est en fait le premier des deux. On lui attribuera plus tard le numéro 2, car il sera publié après l'autre en 1836. Chopin, c'est un compositeur qui compte beaucoup pour Nelson Gurner. Il l'étudie aux côtés du pianiste russe Nikita Magaloff, qui le prend sous son aile. Dans ses grands entretiens en 2017 à Judith Chen pour France Musique, Nelson Gurner confie « Pour tout pianiste, Chopin est un compositeur qu'on porte dans son cœur. Avec ce grand romantique qui avait une passion des grands classiques, on est sans cesse confronté à une dualité dans sa musique. C'est un personnage tourmenté, mais très noble dans ses moyens d'expression. Il est très dur pour un interprète de réussir cet alliage présent dans toute son œuvre. Cet attachement au classique ne l'a jamais quitté. »